le culte et le navrant.
Pour survivre à une guerre, de devenir la guerre.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Je t'aime.
Je sais.
On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul.
Il nous faudrait un plus gros bateau, non?
Un tout petit cuisinier.
Appelez-moi Plisken.
J'ai gagné.
Nom de Dieu.
Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Ridicules.
Ils sont très étranges. Très cons et très étranges.
Salut Carlito.
Salut Tom, comment ça va ?
Eh bien écoute, ma foi, ça va bien. Je suis très heureux d'aborder avec toi la partie numéro 4.
Ah bah moi je suis toujours content quand on arrive là, hein, parce que
et
c'est le défouloir.
C'est qu'on a envie de dire qu'on garde toujours le meilleur pour la fin.
Donc, c'est le meilleur du pire qu'on garde pour la fin.
Le meilleur du pire, bien entendu. Partie 4 de notre thème Sortez-le de là, consacré au film de sauvetage un peu épique, façon New York 1997. Donc quatrième partie ridicule, consacrée à un florilège des nanars
de sauvetage foireux
ayant tenté de copier le genre. Donc on vous rappelle que sont disponibles aussi sur le même thème la première partie autour du culte qui est consacrée à New York 1997, la deuxième partie copy culte qui est consacrée à Los Angeles 2013.
Exactement.
Notre troisième partie ça se disculte que nous avons consacrée à Doomsday, film de Neil Marshall. Et évidemment, on se retrouve pour Ridicult, la quatrième partie. Alors, dans Ridicult, mon petit Carlito, on va commencer par...
On ne pouvait pas.
Évidemment, nous ne pouvions pas
ne
faire
pas
l'impasse sur quelques bons petits films italiens des années 80 qui ont tenté, évidemment, de surfer sur le genre posé par notre ami John Carpenter. Et on va commencer par vous parler... Et des Guerriers du Bronx, film de 1982, réalisé par Enzo G. Castellari.
Alors, qui lui a carrément et de manière éhontée essayé de surfer sur tout ce qui était surfable à l'époque.
Bien entendu. On a déjà parlé d'Enzo Castellari dans notre podcast, puisque lorsqu'on a fait notre épisode consacré au film de requins, on va dire en majorité, on a parlé de lui à l'occasion de La Mort
au
Large.
Hein,
souvenez-vous, il en vaut vraiment la chandelle, La Mort au Large, pour le coup. Dans l'épisode précédent consacré au post-apocalyptique, c'est non sans émotion que j'évoque Les Nouveaux Barbares, qui a été commis aussi par Castellari. On vous invite vraiment à écouter la partie ridicule de l'épisode post-apocalyptique, notre épisode 8, parce que Les Nouveaux Barbares vous sont pesants de cacahuètes.
Celui-là est pas mal non plus.
Celui-ci est vraiment pas mal non plus.
Enfin, celui-là, on peut le dire. Il y en a deux quand même cette fois-ci de Castellari.
Pourquoi se priver
Non, parce que c'est quand même un bon client.
Et tout à fait. Alors, cela étant, Castellari, quand même, rendons hommage, il a pas fait que des nanars. Au départ, il avait commencé par des western spaghetti. Il en a fait quelques-uns de bons, dont Keoma, qui est quand même un western assez solide. Mais bon, très vite, il s'est un peu spécialisé dans les années 80 sur le copier-coller à l'italien. De ce qui marchait aux États-Unis.
Alors, et ce qui marchait aux États-Unis à cette époque-là, c'était New York 1997 et c'était aussi, on peut le dire quand même, un autre film dont il s'est largement inspiré. Les Guerriers de la Nuit.
Les Guerriers de la Nuit.
Walter Hill.
Et oui, on ne peut pas parler des Guerriers du Bronx sans parler des Guerriers de la Nuit Walter Hill. On y reviendra parce que vraiment, les Guerriers du Bronx, c'est un mélange de New York 97 et des Guerriers de la Nuit. Évidemment.
Guerrier de la Nuit qu'on vous conseille, que chroniquera sûrement un jour parce que ce film est quand même juste.
Bon, on en parlera juste un petit peu après pour vous donner un peu le contexte des Guerriers de la Nuit, mais parlons du casting de ce film. Donc on retrouve dans le rôle principal,
on trouve, parce que
c'est sa première apparition à l'écran. Donc le grand, dans tous les sens du terme, Marc Gregory, Marco De Gregorio, mais pour l'international. Il a été appelé Marc Gregory, Marc avec un K, qui joue le rôle principal de Trash,
Voilà, le détritus, hein, le bien nommé pour habiter dans le Bronx.
Donc Marc Gregory, on en parlera un petit peu par la suite. Il a fait quelques autres films par la suite, mais évidemment il n'a pas eu une carrière fulgurante.
Bah, il a fait les Thunder, sont des films. Oui. Pareil.
On peut en parler maintenant du début de sa carrière. Bon, déjà il a été trouvé dans une salle de sport parce qu'il fallait un mec un peu imposant. Et c'est vrai qu'il a des airs de Rambo du pauvre parce qu'il a vraiment la coupe de cheveux de Stallone dans Rambo 2 quoi. Donc il a un petit côté Rambo comme ça, en moins musclé quand même. Et après il a fait Adam et Ève, la première histoire d'amour, autrement connu sous le titre de Adam et Ève et les cannibales.
Je préfère cette version-là, moi.
Rien à voir. Et après, il s'est spécialisé dans les films. Ah bah du coup, à la Rambo un peu, parce qu'il a incarné le Thunder.
Voilà.
Une sorte de Rambo du pauvre, qui a eu droit à deux suites. Et puis donc, il a fait Les Guerriers du Bronx 2, dont on parlera juste après.
On a Connelly.
Oui, alors Christopher Connelly, dont tu vas nous parler parce que j'ai rien pris sur cette.
De toute façon, c'est normal, hein, parce qu'il a pour le coup, le gars hein, n'a quand même pas fait des chefs-d'œuvre. Hein, je vous cite hein, La Malédiction du Pharaon, Les Prédateurs du Futur, Les Aventuriers de l'Enfer,
Ça donne envie.
Les Mines du Kilimandjaro. Monsieur était spécialisé dans le film d'aventure à base de jungle, hein, quand même. Strike Commando.
Ah, c'est beau ça.
Django 2, Le Grand Retour et La Nuit des Requins.
Magnifique.
Donc on voit que, bon, on est sur un esthète.
Une pointure.
Ouais, ouais.
Une pointure. Non, moi j'allais te parler quand
de
même.
De Vic aussi, Morrow.
Évidemment, de Vic Morrow.
Bah, bien sûr.
Alors Vic Morrow, dont on a déjà parlé puisqu'il jouait dans La Mort au Large.
Ouais.
Donc qu'on a chroniqué dans l'épisode numéro 3. Et alors au début de sa carrière, il faisait beaucoup de westerns. Et puis bon, effectivement, sa carrière a rapidement battu de l'aile. Est-ce que j'en parle tout de suite ? Je ne sais pas où j'en parlerai tout à l'heure. Mais Vic Morrow est mort dans des circonstances dramatiques. Nous en parlons dans l'épisode 3. Mais sachez que Vic Morrow, pour revenir un peu sur le devant de la scène, avait eu la chance de jouer dans les années 80. Donc dans l'adaptation cinéma de La Quatrième Dimension, qui était un film avec plusieurs petits films, et il y en avait un qui était réalisé par John Landis, et donc Vic Morrow dans ce film jouait un soldat qui est au Vietnam et qui récupère deux petits Vietnamiens. Et il se trouve que lors du tournage, la dernière scène du film, une des dernières scènes, montre Vic Morrow tenant les deux petits Vietnamiens qu'il récupère dans les bras, et puis au-dessus d'eux, il y a un hélicoptère. Pour des raisons inconnues, l'hélicoptère se gaufre, s'écrase, et donc en s'écrasant, l'hélicoptère, les pales de l'hélicoptère décapitent Vic Morrow, décapitent un des gamins et tue le deuxième. Donc s'ensuit des années de procès, et notamment par la famille de Vic Morrow, parce que Vic Morrow, faut le savoir, c'est le père de Jennifer Jason Leigh, qui est beaucoup plus connu que son père, et donc elle a fini par gagner ce procès, mais il est mort dans des conditions atroces, Vic Morrow, et à chaque fois que je le vois dans un film, je ne peux pas m'empêcher à ça, parce que c'est quand même terrible de finir sa carrière dans des conditions aussi atroces.
C'est
donc
vrai.
Vic Morrow, petite pensée de nouveau pour lui. On retrouve aussi au casting Fred Williamson.
Ouais.
Voilà.
Donc on connaît, hein, on va pas le citer. En plus, c'est un bon client du podcast quand même, Fred Williamson.
Tout à fait,
hein.
Parce qu'il a toujours joué dans ses films italiens La Caution Internationale.
Et puis on retrouve aussi toute la famille d'Enzo. Il y a Enzo Castellari qui joue dedans. Hein. Il y a son frère, Ennio Gilorami. Et puis sa fille, Stefania Gilorami, qui joue la fille du président qui est allé se perdre dans le Bronx.
Et oui.
Il a amené toute la famille.
Mais oui, tant qu'à faire, pourquoi pas.
L'inénarrable, l'inévitable, évidemment, l'incompressible George Eastman.
George Eastman, dont nous avons déjà parlé dans ce podcast, puisque non seulement il est passé par moments derrière la caméra, George Eastman, mais il jouait le fameux personnage de l'homme qui se mange tout seul quand même dans Anthropophagus. Il jouait dans Les Nouveaux Barbares, puisqu'il jouait le chef de la secte des Templars. Il en a fait une ribambelle. C'est lui qui avait réalisé aussi, souviens-toi, 2020, Texas Gladiateur, dont on a parlé dans notre épisode précédent. Voilà, donc là, on a fait le tour du casting. Alors, ouais. Tu vas nous faire, évidemment, le pitch.
Ah bah oui, bah, ça oui, je peux vous faire le pitch, parce que de toute façon, ça, ça mange pas de pain, hein, ça va vite. Hein. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'en gros, on agrège à la fois Les Guerriers de la Nuit, l'excellent Les Guerriers de la Nuit, et l'excellent New York 1997, et ça donne... En 1990, le Bronx est devenu une zone de non-droit où règnent des bandes impitoyables... Et la fille de Monsieur Drummond, seuls les vrais auront la ref.
Personne dans le monde voilà. Ne marche du même pas. Bon, bref.
Patron d'un mania de l'armement qui doit hériter de son empire à ses 18 ans, préfère dire merde au système capitaliste et se réfugier chez ces beaux rebelles du Bronx. Niveau crise d'ado, on est à un level jamais atteint là. Et surtout son idylle avec Trash, le leader de la bande des Riders, sera bien vite contrarié. Le pouvoir et papa sont évidemment fermement décidés à lui remettre la main dessus.
Ça donne encore une fois envie, hein, bien entendu, et je pense que le pitch est 10 fois mieux que le film. Voilà. Donc attendez-vous au pire. Alors, on l'a dit, Castellari nous fait un petit mix entre New York 97 et Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Alors parlons un petit peu rapidement des Guerriers de la Nuit. Enfin, parce
rapidement,
que...
c'est dur pour moi.
Ouais, c'est dur. Je pense qu'on en fera un jour, on le traitera vraiment. Mais Les Guerriers de la Nuit, c'est ce qui a vraiment donné naissance au film de bande, on peut dire. Puisque ça raconte l'histoire de différentes bandes de marginaux à New York,
Qui
s'affrontent.
Exactement, ouais. Voilà, ils sont conviés à un rassemblement par le leader de la plus grande des bandes de New York et ils doivent traverser tous les territoires des autres bandes. Il y a une trêve qui est votée et s'ensuit l'assassinat évidemment du chef de gang. On les accuse, ils doivent retraverser tout New York avec toutes les bandes à leur trousse. Et ça donne une nuit d'enfer pour eux et un film d'enfer pour nous. Quoi.
Exactement.
Et surtout, ils catégorisent très fortement
chacune des bandes.
Chacune des bandes qui a son look, sa façon de fonctionner, sa façon de parler. Et c'est assez génial visuellement à voir.
Voilà.
Faites-vous juste le générique. Rien que le générique, c'est une beauté, quoi, le truc. Et ça n'a même pas... Pourtant, le truc a quand même 40 ans. Et tu regardes le générique, t'as envie de voir le film, hein.
Et mais absolument, mais au point même, hein, je te l'avais dit, parce que évidemment, au-delà de chroniquer des films de cinéma, on a une vie, Carlito et moi, en parallèle, une petite vie, et j'ai même été moi-même jusqu'à pousser à un client, il y a des années, une sorte d'histoire tirée de ce film. Ouais. Voilà, parce que c'était assez inspirant. Et je me revois faire une présentation en anglais de tout un truc inspiré des Guerriers de la Nuit. Inutile de te dire que ça n'avait pas été une partie de plaisir.
Mais c'était courageux. Bah, moi, j'apprécie ça, monsieur.
C'était courageux. Voilà.
J'apprécie.
Et voilà, le client n'avait pas forcément apprécié à sa juste valeur l'effort que j'avais fourni. Mais pourquoi on vous parle de ça? Parce que ce que notre ami Castellari a retenu surtout des Guerriers de la Nuit, c'est justement le côté visuel, le côté bande, le côté look. Voilà.
Surtout le côté look, et il l'a adapté au côté look, mais en mode armée du salut.
Tout à fait.
C'est ce qu'il nous livre là.
Un petit point de contexte, sachez déjà que, évidemment, Les Guerriers de New York n'a pas été tourné à New York, évidemment.
Non.
Quelques scènes ont été tournées sur un terrain vague face à Manhattan.
Exactement.
Il y a une scène en particulier, donc ça peut laisser en tant que scène noire. Tout le reste, ils l'ont tourné dans la banlieue de Rome et dans des ruines en Italie. Donc, mais cela étant, dans ces ruines, on croise notre héros Trash et sa bande croise pas mal de bandes. Donc là, c'est carrément inspiré des Guerriers de la Nuit.
Par contre, tu remarqueras que dans le Bronx d'Enzo Castellari, il n'y a quand même pas beaucoup de blagues. Hein.
Oui, c'est vrai que...
à part Fred Williamson.
Il y a Fred Williamson et ses potes, mais il n'y en a pas beaucoup.
C'est vrai
qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on retrouve quoi comme bande? Parce qu'il faut en parler tout de suite. Alors déjà, il y a les Scavengers.
Ah oui.
Alors, les Scavengers, c'est des clodos un peu hommes des cavernes.
Qui vivent dans les égouts.
Ouais, ils vivent dans les égouts. Ils sont fringués un peu comme s'ils avaient mis le gilet que Thérèse offre à Thierry l'Ermite dans le Père Noël, sur ordure, quoi.
C'est ça.
Ils sont en cirque, en mode serpillière, comme ça.
Ça, exactement.
Donc ça, ils sont flippants, les Scavengers. Ils doivent sentir très fort aussi, je pense.
Ah oui, c'est sûr.
Après, on a les mimes danseurs.
Mimes
danseurs, donc alors eux, vraiment, ils sont un peu inspirés d'Orange Mécanique.
Oui, il y a un peu d'orange mécanique, ouais, avec le chapeau melon, avec la canne, avec le côté un peu décalé de la danse. Ouais.
Les mimes Marceau qui non, ils sont ridicules, mais ouais, ils se battent en mimant en plus, donc ça, faut quand même le voir. Ouais. On a évidemment le gang, comment dire, le gang des patins à roulettes, comment
ouais,
l'appeler autrement.
Il existe aussi dans Les Guerriers de la Nuit, mais un peu mieux, quoi. Hein, parce que là, c'est... Et puis, tu as évidemment le gang que dirige Golan, George Eastman.
Voilà, bah, tout à fait. Bah, c'est celui-là, c'est les mecs des hockeyeurs. Bah, c'est ouais, ça, c'est les hockeyeurs, patins ouais. roulettes. C'est Golem, donc notre ami George Eastman, qui est le chef avec ça. Lui, là aussi, une magnifique queue de cheval.
Ah oui.
Magnifique queue de cheval, ouais. Superbe. Et nous avons une sorte de groupe gothique, un peu vampire aussi, qu'on voit un petit
peu. Ouais, on les voit un petit peu. Et puis, il y a le gang du boss, quoi.
Ouais, le gang de Fred Williamson.
Le gang du duc, en fait, de New York, parce que c'est là on rebascule dans New York 97.
Avec des vieilles voitures un peu custom.
C'est ça, comme dans New York 1997, il manque plus que les lustres à l'avant des bagnoles, et puis on est bon, quoi.
Et puis, donc ça, c'est pour le gang de Fred Williamson, et puis il y a le gang de Trash en lui-même.
Bien sûr.
Voilà, donc j'ai oublié le nom, c'est d'ailleurs...
Riders.
Les Riders, bah oui, les Riders.
Oui, les Riders.
Et pourquoi les Riders? Parce que...
Et ils se baladent avec en plus la tête de mort allumée devant leur moto, là, tu sais, une espèce de tête de mort en plastique.
Ouais.
Ils font penser à Ghost Rider, mais vraiment version Ikea, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ça m'a beaucoup intrigué, cette tête de mort, parce que je me suis demandé comment ils font pour allumer cette tête de mort qui brille. Hein, je me dis, ils mettent une bougie dedans, il y a un mec sur une dynamo caché quelque part. Je sais pas, c'est curieux, mais du coup, c'est à la fois. C'est étrange parce que c'est vraiment l'ustensile qui se retourne. Contre eux, parce que c'est censé faire peur.
Non, ça fait rire.
Surtout rire. Hein,
ouais.
C'est surtout
ça fait rire, et puis on les voit à des kilomètres comme ça.
C'est alors, donc ça, c'est pour vous caractériser un petit peu le look de ces bandes, mais au-delà des looks, il y a les pseudos aussi, hein, qu'il faut quand même retenir, parce que si tu n'as pas un pseudo de ouf dans Les Guerriers du Bronx, tu ne vaux rien. Donc le personnage principal, on le dit, s'appelle Trash, mais il est accompagné par Witch, par Hammer, par L'Ogre, par Hans. Alors Hans, comme son nom l'indique, c'est un salopard de nazi. Il y a Hot Dog aussi.
Oui.
C'est pas mal de, hein, quand tu t'appelles Hot Dog, tu mets la barre quand même très très haute, je dirais, en termes de crédibilité. Golem, on l'a dit, et donc tout ce petit monde constitue la population du Bronx et des guerriers du Bronx. Alors, revenons un petit peu à l'histoire. Donc, comme tu le disais, la fille d'un riche magnat de l'immobilier...
Ouais, un truc un peu dans ce genre.
...s'enfuit et se retrouve là.
Bon. Ouais.
Et alors là, premier coup de théâtre, c'est qu'elle est recueillie et défendue par Trash, mais finalement, ils tombent un peu amoureux l'un de l'autre.
Ouais.
Et finalement, c'est le mec, un peu façon Snake Plissken, finalement, donc Vic Morrow, qui va être embauché pour ramener la fille. Mais il n'est pas gentil du tout. C'est pas
non,
du tout Snake Plissken.
Par contre, c'est la différence, effectivement. Donc c'est là où ça prend un virage par rapport à New York 1997. C'est que le bon, en fait, fait partie des rebuts.
Voilà.
Chez Enzo Castellari, il n'est pas envoyé de l'extérieur pour ramener la jeune fille et il se rend compte que finalement, il a peut-être été envoyé par les méchants. Il est directement... On fait plus simple, quoi. Tu vois,
oui.
Il fait partie des gangs du Bronx et il va évidemment défendre et empêcher qu'on retrouve cette fille qu'il n'avait jamais vue avant et dont il a un peu la foutre quand même, parce qu'on dit qu'il est vite fait tombé amoureux. Il faut quand même qu'on parle de l'expressivité de Marc Gregory, parce que c'est pas facile.
C'est un point fort du film.
C'est pas facile de savoir s'il est tombé amoureux, s'il a envie de la tuer, s'il est triste, ou s'il est en train d'éclater de rire. Hein. Il est quand même impénétrable, ce garçon.
Je dirais que Gary Daniels, dont on parlait dans Quel le survivant, dans l'épisode précédent, a dû fortement s'inspirer de Marc Gregory.
L'un a donné des cours à l'autre, c'est sûr.
Dans son acting, effectivement.
C'est sûr.
Puisque, quelle que soit l'émotion, Marc a le même visage tout le temps.
Et c'est un visage qui dit « je m'en fous ».
Voilà. Ce qu'il sauve un peu dans la version française, c'est qu'il est doublé par Alain Dorval, ouais. Qui fait la voix de Stallone.
La voix de Stallone.
D'ailleurs, ouais. Ça fait bizarre parce qu'il a quand même pas le physique de Stallone, mais il a une voix hyper grave. Enfin, ça marche pas bien. Mais il fait ce qu'il peut pour sauver les meubles, Alain Dorval. Tout comme d'ailleurs pas mal d'autres doubleurs. Hein. C'est vrai que là aussi, c'est savoureux. Ouais. On retrouve comment Fred Mondo, qui doublait tous les Blacks, faut bien
Mondo,
dire.
Fred Mondo.
Qui fait Fred Williamson, parce que c'est lui qui doublait tous les Blacks dans les années 80. Et puis, il y a aussi le Patrick Poitvin, je ne sais plus, en
Poivet,
tout cas, Poivet, Patrick Poivet, qui double, donc le doublage est assez savoureux. Donc, tout ce petit monde, donc Hammer, donc Vic Morrow, débarque là-dedans, et c'est vrai qu'il est déjà, premièrement, surpris par l'ambiance Village People, un petit peu,
Mais ce qu'il faut quand même bien dire, c'est ceux qui ont été les plus gâtés dans les looks de Castellari, c'est quand même les Riders, quoi.
Ouais, voilà.
Les mecs, ils sont tous en veste en cuir sans manches, avec des moustaches, mais vraiment...
Des moustaches, vraiment, c'est un festival de moustaches,
en cuir,
de casquettes, de cuir, de bandeaux, de bandana.
On les a pas loupés, quoi.
De lunettes Ray-Ban, mais gros modèle façon Panchiarello, quoi, dans Chips, souviens-toi, belle référence. Donc les gars, c'est vrai qu'ils incarnent quand même la virilité, là, c'est des durs et tout, mais c'est vrai que quand tu les vois au départ, tu te dis, tiens, ils vont commencer à chanter YMCA, quoi.
Ouais, clairement.
C'est bon. Donc c'est un petit peu too much là-dessus, mais cela étant, Hammer, à la fin du film, Hammer, lui aura une tenue très fortement inspirée de tout ça, parce qu'il est quand même dans une magnifique tenue cuir, avec une belle casquette à la fin. Qui finit.
Mais c'est plus limite c'est BDSM lui.
Ouais, lui c'est plus.
Il vient pour le final, il vient faire mal. Hein. Il est avec son fouet. Attention, faut pas que.
Absolument.
Non, c'est pas lui qui a le fouet, c'est la copine de Fred Williamson.
Oui, tout à fait.
Lui, il a le lance-flamme. C'est pas mieux. Hein.
Tout à fait.
Voilà, donc ça se finit mal, vous l'aurez compris.
Oui,
hein. Coup de lance-flamme et de fouet, ça peut bien se terminer.
Ah oui, non,
cette histoire.
Exactement. Mais il y a un autre. Ah oui, pardon, on n'a pas évoqué Marc Grégory, il a une démarche aussi. C'est vrai, quand vous voyez Marc Grégory, il est très grand, mais on sent qu'il ne sait pas trop quoi faire de ses grands membres, de ses grandes jambes, il a une démarche très étrange.
Et alors,
très
le pire, c'est quand il essaie d'être, je sais pas, élégant ou un peu. Ça ne marche pas du tout.
Non, ça marche pas.
Il est ultra raide. D'ailleurs, il paraît que parce que pour la petite histoire, Castellari a embauché des vrais Hells Angels pour tourner une des scènes, celle où ils sont au bord de l'eau. Voilà, où ils sont au bout de la jetée, voilà, ils viennent rencontrer, je crois, le duc arrive ou je sais pas quoi. Et donc, il y a effectivement une scène où ils marchent comme et les autres se foutent littéralement de sa gueule et on le voit. On le voit à la pellicule, quoi.
Non, on a
et
mal pour lui.
Et lui, ne comprenait pas, parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, de toute façon. Et il pensait que c'était dans le film, et voilà, il trouvait
d'ailleurs,
ça très bien.
Parlons-en un petit peu de cette scène, parce que cette scène-là est assez caractéristique du cinéma de Castellari, parce qu'on le dit, il essaie toujours de faire le maximum avec le peu qu'il a.
Oui, oui.
Et alors, il a des idées parfois assez saugrenues de plans. Il voit grand dans les plans et il fait des trucs assez particuliers. Et donc, dans cette scène où tous les bikers se réunissent face à Manhattan, c'est parce qu'ils viennent finalement faire la veillée funèbre d'un des leurs qui est mort au bord de l'eau.
Exactement.
On ne sait pas trop pourquoi. Et alors, cette scène, pendant toute la scène, il y a un mec qui joue de la batterie, de la caisse claire.
Je ne sais pas, moi, je ne suis pas amateur de musique, mais en tout cas, c'est n'importe quoi.
Et ça dure, et tout est rythmé comme ça.
Et surtout qu'au début, tu ne vois pas. Donc tu te dis, tiens, ils ont mis une musique bizarre.
Oui, parce qu'en plus, ils ont doublé. C'est-à-dire que la musique, donc de batterie, n'est pas au rythme de ce qu'ils jouent, parce qu'ils l'ont redoublé derrière.
C'est
n'importe quoi. Et le film, il est truffé de tentatives comme ça, un peu étranges du réel, qui essaie de faire. Quand il passe d'un niveau à l'autre, tu sais, dans les ruines, voilà, la caméra suit les niveaux.
Oui, oui.
Y a des choses comme. Il y a un plan où Fred Williamson, en fait, on commence le plan, on est derrière, on est au niveau du pommeau de la canne de Williamson, je sais pas si t'as vu ce plan.
Ouais.
Et tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il essaie de faire là il fait des trucs chelous, il tente, il est assez gourmand de trucs comme ça, et parfois, et c'est pour ça qu'il arrive à étonner en permanence.
Ah bah, il garde aussi tout ce qui se passe, hein, parce qu'on a quand même une scène hallucinante. Où il y a c'est le fameux Hans,
le
traître,
Parlons-en.
qui quand même hallucinant. Se pointe. Il y a une espèce de scène de poursuite à moto,
on peut le dire, de poursuite.
Parce que quelqu'un de la bande de Trash a vu qu'il avait trahi ce salaud de Hans, et donc il s'en va le prévenir, et Hans lui court après avec sa moto, et à un moment, il se vautre royalement avec sa moto, et on voit très bien, on n'arrivera jamais à me faire croire que c'était voulu et écrit dans le script,
c'est clair.
On le voit partir, la caméra était sur le point de passer à autre chose, et d'un seul coup, on voit la moto qui fait chasser à l'arrière et le mec qui est éjecté comme une merde.
Puis vraiment, il tombe comme une merde, quoi. C'est même pas, on peut se dire, il a essayé de faire une cascade. Il tombe comme une merde. Tu sens qu'il se fait mal en plus. Et c'est... La moto, elle tombe par terre comme ça. C'est
et ça
ridicule.
Ne sert pas du tout l'histoire. Mais Castella, il a dit, oh, j'ai une cascade gratuite. Je vais la garder.
Et puis je pense qu'il a plié la moto parce qu'après, on
la
voit plus.
Défoncé.
On la voit plus du tout, la moto. Il a vraiment défoncé, quoi. Le mec, je suis sûr, tu regardes bien, il boitille un peu. Il boitille un peu. Mais bon, c'est pas grave, c'était le nazi. Il a une veste nazie. Ouais. On voit bien que de toute façon,
il méritait, il était
méchant. C'est un peu le Judas de l'histoire, lui. Et donc, c'est vrai, il y a cette scène. Et au-delà de ça, alors après, évidemment, il y a aussi beaucoup de mannequins, de mannequins qui explosent, des trucs comme ça.
Parce
que là aussi, il est très généreux
là-dessus. Non,
il n'y a pas beaucoup de mannequins. Mais il est généreux aussi sur ce genre de scène d'explosion. Tout ça, il le fera encore plus dans la suite.
Ouais, la fin, c'est quand même une espèce de règlement de compte au lance-flamme. Ça flambe sec.
Si, il y a une scène aussi. Si. Parce que là, j'étais en train de penser à la scène de fin où Fred Williamson. Bon, Fred, on veut pas vous spoiler, mais ça se finit pas bien pour Fred Williamson.
Non, ça
mais,
c'est vrai.
Mais il a une mort digne, parce que c'est Fred Williamson quand même. On peut pas le faire mourir n'importe comment, donc il meurt sur son trône, tout ça. Mais il y a une scène magnifique. C'est le combat entre Fred Williamson et George Eastman.
Oui.
Parce que Fred Williamson nous fait des petites poses de karaté. Comme il sait bien faire, en mimant les griffes d'animaux avec ses mains et tout. Il explose l'autre, mais c'est vrai qu'on est à deux doigts de se dire que, bon, faut pas qu'il se rate parce que les poses en elles-mêmes sont un poil ridicules, faut quand même le dire. voilà, mais bon, il est toujours digne, Fred Williamson, c'est ça qui est bien avec lui.
Par contre, ce qui n'est pas digne, c'est les dialogues. Hein, ça, c'est pas
oui,
très digne.
Oui, alors ça,
parce
évidemment.
Que on a quand même une espèce de florilège de phrases « what the fuck » là-dedans, hein. Mais vraiment, donc je vous en cite quelques-unes que j'ai relevées comme ça. Hein. Putain, enfoiré, je vais te caresser la gueule, moi.
C'est poétique. Voilà. C'est poétique.
Ouais. Je commence à en avoir marre de toi et de tes summers de merde. Je pensais que tu m'aimais autrement que copain.
Ah bah oui.
Et le summum, hein, l'Oscar de la phrase What the fuck est décerné à on va vous l'expliquer dans un œuf de Pâques.
Ah oui. Bah oui, mais évidemment.
Alors,
mais bien entendu.
Alors, hein. Donc ça, c'est les aléas de la traduction, je pense.
Et Hans, où t'as eu ton permis de conduire? Bah dans un œuf de Pâques.
Voilà,
bien sûr. Alors moi, j'aime bien aussi le nom qu'il donne à l'opération l'opération Terre Brûlée.
Bah oui.
Et quand on dit, c'est quoi l'opération Terre Brûlée? L'opération Terre Brûlée, de la cendre, rien que de la cendre.
Ah voilà, c'est simple.
Ça m'en dit beaucoup. J'aimerais qu'on s'arrête aussi sur les grandes capacités. On a parlé de Marc Gregory, mais des acteurs d'une manière. Et j'aimerais revenir sur une scène avant de conclure.
Ouais.
On l'a dit, notre ami est entouré par les Village People.
Ça,
et il y a notamment son bras droit qui est moins un Village People que Freddie Mercury.
En fait, c'est directement
sosie. Freddie Mercury, c'est son sosie. Je me demande si c'est pas Freddie Mercury qui a fait un caméo. Je me suis demandé. Bon, bref. Et donc, à un moment donné, ce sosie de Freddie Mercury meurt dans d'atroces conditions. Et donc, c'est Trash qui est censé pleurer, son frère meurt. Et évidemment, comme il ne sait pas jouer, c'est vrai que c'est
pleurer, c'est dur.
Ridicule, c'est dur. Alors il le prend dans ses bras comme ça. Non, le gars meurt dans ses bras et lui dit, à la fin, il dit Trash. Ça fait penser à ces scènes de Nanarland dans des films turcs où les mecs, avant de mourir, tu sais, ils mettent 10 minutes avant de tomber par terre.
Ça.
Lui, c'est pareil. C'est pareil. Il n'en finit plus de mourir. Et après, ils nous font toute une scène de deuil aussi, autour de la mort de notre ami.
Ça, c'est quand même une des meilleures scènes du film.
Ah, oui.
La scène du deuil, tu vois, où les mecs se recueillent auprès du corps et t'as des plans serrés sur leur tronche t'as quand même envie de te marrer à chaque, ah, passage, oui, oui. À chaque rider qui est passé en revue.
Mais c'est ça qui est bien dans les Gardiens du Monde, c'est une grosse poilade.
Ah bah oui, oui. Et le 2, va aborder tout de suite tout dans suite, la foulée.
Dans la foulée,
et ben, parce que... On continue sur le mode, dans le mode poilade.
Mais bien sûr, c'est du même acabit. Et comme on vous l'a dit, ce film n'a pas coûté grand-chose à faire.
Ah,
mais forcément, il a rapporté de l'argent. Puisqu'en oui, plus, oui. Grande époque, VHS, tout ça, etc. Donc ça, ces films-là rapportaient de l'argent par rapport à ce qu'ils coûtaient. Donc évidemment, Castellari, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah,
surtout que
une suite.
Ah oui, et puis là, il s'est pas fait chier. Je crois qu'il a été tourné, produit, machin, en 18 mois après le, oui. Après le premier. Hein. Il s'est dit, oh là, ça a oui, pas marché, hop, oui. On y retourne.
Exactement. Et donc, Les Guerriers du Bronx 2,
ouais.
Toujours réalisé par Castellari, évidemment, toujours avec Marc Gregory dans le rôle de Trash. Hein. On prend les mêmes et on recommence, mais avec quelques nouveautés au casting.
Hein. Bah évidemment, on en avait tué quand même un certain nombre à la fin du premier.
Évidemment. Et donc, au casting, on a Henry Silva. Alors, Henry Silva, vous le connaissez parce qu'il a fait plus de 130 rôles dans sa carrière.
Ouais. Celui-là, pour le coup, on ne va vraiment pas citer sa filmographie.
Il a quand même joué dans des grands films comme Megaforce.
Il a fait beaucoup de policiers de western aussi. Hein,
il a vraiment. Même joué avec Belmondo dans le Barginal. Il a joué avec Steven dans Nico.
Et oui, c'est vrai. Et il a fait... Buck Rogers au 25e siècle.
Et ça, quand même...
C'est pas mal, Buck Rogers.
Ouais, Buck Rogers, c'est quand même pas mal. Cyborg.
Et Ghost Dog.
Il joue dans Cyborg.
Ghost Dog.
Donc le gars, vous verrez, il a une vraie tête de méchant. C'est vrai que
oui, l'utilisait souvent. Oui, c'est le méchant par excellence. Voilà. Quoi.
Il le porte sur son visage. Donc Henry Silva, dont on parlera tout à l'heure. On retrouve aussi Giancarlo Prete. Alors pardon, moi j'ai fait espagnol en deuxième langue.
Ouais, ça se sent.
Italien, ça se sent. Qui jouait dans La Mort au Large, Les Nouveaux Barbares aussi.
Concours de films au titre à la con. Hein. Macho Callaghan se déchaîne, SS représailles, les proxénètes, caresse à domicile, quand même, tout de même. Il a fait aussi dans l'émotion, ce garçon.
Tout à fait.
Et la grande débandade, mais ça n'est pas lié. Ça n'a rien à voir avec le précédent.
Rien à voir avec le film. Alors, du coup, moi, je vois une transition toute simple pour évoquer aussi le fait que dans ce film, on trouve Moana Pozzi.
Oui, bravo.
Voilà.
Oh,
et oui,
la transition.
Belle transition.
Oh, elle est belle.
Moana Pozzi, pour rappeler qui était Moana Pozzi, donc actrice X italienne, mais qui est surtout connue parce qu'elle avait fondé le Parti de l'amour avec la Cicciolina.
Tout à fait.
Dans les années 90. Voilà, donc qui joue dans ce film. Alors.
Et qui est tristement morte d'un cancer.
Tu as raison.
Quelques années après avoir fondé le parti.
Elle est morte assez jeune en plus. Tu as raison de le rappeler. Ce film, comme tu le disais, il est tourné 18 mois après le premier.
On enchaîne.
On enchaîne tellement que l'histoire reprend pratiquement là où on l'avait laissé dans le premier. Et Castellari dira quand même qu'il n'aime pas du tout ce film. Pour que Castellari dise qu'il n'aime pas un film, c'est que vraiment le truc est...
Non, mais ce qu'il n'aime pas, surtout, c'est que son héros, il a perdu trop de masse musculaire. Et ça l'a énervé, le
Enzo. Il a perdu en masse musculaire. Hein, donc,
il n'a pas été assez à la salle, il est moins massif.
Ouais,
Et du coup, pour le punir, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis...
Il a acheté un petit blouson.
Et voilà.
Et voilà, donc du coup, vous verrez surtout Marc Gregory avec un petit blouson de cuir dans ce film-là, parce qu'il était un petit peu moins en forme physiquement. Et donc, on vous le disait, le film commence là où le premier s'arrêtait.
Je vais vous faire le pitch, si vous voulez bien.
Voilà, fais-nous le pitch, tout à fait.
On va remettre un peu le truc
en bouche.
De toute façon, c'est simple. Bon, c'est vrai, on vous l'avoue. Cette fois-ci, on a quand même fait une petite entorse au thème de l'émission. Parce que ce film, on l'a gardé, c'est la suite des Guerriers du Bronx, etc. Mais c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un sortez-le de là. Hein. Ouais. C'est plutôt un laissez-nous là, en fait. Parce que pour une fois, les autorités n'en ont pas rien à foutre du Bronx. Hein. C'est même tout le contraire. Ils le laissent pas à l'abandon. Ils voient plutôt dans ce quartier où il n'y a que des laissés pour compte, une espèce de manne financière et ils aimeraient bien y construire un grand parc immobilier avec des belles résidences où des gens très riches pourraient venir, et pour ça il faut virer tous les pouilleux qui y habitent, et donc ils veulent évacuer tous les clodos, raser le quartier, vendre très cher leur joli loft avec vue sur l'Hudson River. Oui, mais c'est sans compter sur Trash. Il ne se laissera pas faire, il tient à son quartier pourri et ses amis aussi, et ces salauds de promoteurs armés jusqu'aux dents ne vont pas tarder à le découvrir.
Et d'ailleurs, le film commence par un trauma du personnage principal, puisque les parents de Trash habitent dans le Bronx et ils viennent d'être délogés par la brigade de désinfection, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le film. C'est des gens qui sont chargés de déloger les gens. Et les parents, les pauvres parents de Trash se font tuer. Et Trash découvre ça peu de temps après. Alors là, évidemment, on a le droit à encore une magnifique séquence acteur studio de la part de Marc Gregory qui n'en finit pas d'être un mauvais acteur. Et donc forcément, ça lui met les nerfs.
Deux fois qu'une.
Et il n'a vraiment pas l'intention de se laisser faire. Et la grosse différence entre le premier Guerrier du Bronx et le deuxième, c'est que là, dans celui-là, du coup, c'est une surenchère d'action.
Ah, mais il n'y a que ça.
Il n'y a que ça. Ça n'arrête pas, pour le coup. Voilà. Et c'est unité de temps, parce que tout se passe pratiquement en temps réel. Ça ne dure pas très longtemps. Et c'est comment ils vont réussir à lutter contre les brigades là, qui sont venues. Parlons-en un petit peu des brigades.
C'est ça, parce que ça fleure bon quand même, les espèces de brigades, soit de dératisation, soit des espèces de trucs un peu vaguement SS, malsains.
Mention spéciale aux petites combinaisons de spationautes.
Parce qu'ils sont habillés, il y a de la recherche, il y a du stylisme d'enfer.
Qui brille, voilà.
Ouais.
Et à leurs camions de glace qui ont été customisés en camions de désinfection.
Ça ressemble vraiment à ça,
Et mention très très spéciale quand même au chef de la brigade de désinfection, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de notre ami Silva.
Henri Silva.
Henri Silva, qui joue le chef. Et alors lui, en roue libre totale.
Il cabotine, il se marre.
On lui a dit, tu fais le méchant. Alors il fait le méchant. Je pense qu'ils ont dû tourner ses plans sur une journée, puis après ils ont parsemé les plans dans le film. C'est-à-dire qu'il est tout le temps avec une cible à la main, en train de gueuler et d'engueuler ses hommes. Et en gros, il fait à peu près que ça dans le film, avec des répliques toutes plus débiles les unes qu'les autres. Et il y a même un moment où le mec s'excite. Pourquoi il s'excite? Juste pour qu'on lui apporte un café.
J'ai trouvé ça
magnifique.
Et même d'ailleurs, il s'excite pour qu'on lui amène un café, et en plus, il s'énerve parce qu'il n'y a pas de sucre dedans.
Et
on fait toute une tirade là-dessus. Mais d'où ça sort?
Ça te fait une scène, ça te remplit un petit peu. Donc lui, il est complètement en roue libre.
J'ai dit pas de sucre, espèce d'idiot, combien de fois faudra-t-il répéter que je ne veux pas de sucre? Ça m'exaspère à la fin.
Il y a un truc assez marrant aussi, c'est que Silva et sa brigade, ils sont mandatés par le fameux président du consortium immobilier qui veut raser le Bronx. Et ce qui est assez marrant, c'est que le mec, en fait, il est pas aligné sur le rôle qu'il doit avoir. C'est-à-dire qu'en permanence, le réal lui fait dire des phrases qui vont pas avec ce qu'il fait, qui se pose des questions, il a des états d'âme, alors qu'en fait, c'est lui qui demande à tout le monde de faire des saloperies. Et donc, j'ai noté une scène, une réplique, où il dit, il parle au chef de la brigade, il lui dit « Vous savez comment on qualifie vos méthodes? On appelle ça un génocide. » Et l'autre lui répond « Non, le terme, c'est désinfection. »
Il n'a pas fallu 5 jours pour que les Nations Unies s'emparent de cette affaire. On en parle dans toute la presse. Vous savez comment on qualifie vos méthodes? On appelle ça un génocide.
Le terme technique est désinfection. C'est vrai, vous me payez pour régler les questions techniques. La partie morale de cette opération n'est pas de mon ressort.
L'important dans cette histoire, c'est de faire le travail sans bavure. Monsieur Wendler.
Et donc, le mec, il est en train de dire à son homme de main qu'il est en train de faire un génocide. Mais c'est quand même lui qui lui a demandé. C'est ça le paradoxe. Tu vois, ça n'a ni queue ni tête, en fait, tout le long du film. Mais alors, en revanche, grosse dose d'action tout le temps, quoi.
Ça explose à tout va, saute dans tous les sens. Il y a du mannequin de sacrifié, des majorettes qui sont démembrées. Parce que il y a quand même beaucoup de véhicules où tu vois que Le must, c'est quand même une scène où il y a un mec qui passe, une espèce de mec en costard cravate qui descend d'une Porsche. Pourquoi oui, on est quand même oui, au milieu d'une d'un, oui. espèce de no man's oui, land.
C'est la guerre, hein. C'est la guerre, le gars.
C'est la guerre, il n'y a plus une route, hein. c'est des gravats partout. Et le mec, il arrive en Porsche, il descend, il fait coucou à Henri Silva, je crois, et puis il remonte dans sa Porsche, et il explose, et voilà. Tu vois clairement une petite voiture qui saute.
Oui, c'est
ridicule, quoi.
Voilà. Parce qu'une des grandes spécialités de Castellari, on vous le dit, il est gourmand, il est généreux, c'est les maquettes. Donc, comme il n'a pas les moyens, il fait des maquettes. Et puis, les ralentis, il abuse des ralentis, il abuse des mannequins dans tous les sens. Ça se voit la plupart du temps, du coup.
Là, tu le vois clairement. Je veux dire, il y a les mecs qui se font pulvériser la gueule au travers de leur casque avec des battes de baseball. Et tu as la visière du casque qui saute. Et puis, en dessous, tu as une espèce de marmelade rouge. Soi-disant, le mec est en sang. Mais en fait, c'est plus du sang, c'est de la purée de framboise. C'est n'importe quoi.
Petit détail croustillant aussi, les hommes de la brigade de désinfection, donc ils ont des sortes de casques de moto avec des visières, et en fait du coup ils sont mal ventilés, il y a de la buée tout le temps en permanence
c'est vrai,
dans leur casque. Les mecs, je pense qu'ils voient rien, plus, ils voient rien, ils où ils sont.
Si vous regardez bien, je pense qu'il y a des mecs qui se prennent des murs parce qu'ils voyaient pas où
si
ils allaient.
Vous êtes dans le Bronx, vous êtes en Italie, mais en fait c'est le Bronx, de toute façon vous voyez pas.
Courez, essayez d'éviter de vous prendre un mur.
Et je pense qu'en plus du coup, c'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'à mon avis, en tout et pour tout, dans la brigade, les mecs, il doit y avoir trois costumes, trois combinaisons. Ouais. Mais comme on voit jamais leur tête derrière, c'est toujours les mêmes, je pense,
c'est
toujours
ça,
les mêmes qui sont utilisés.
Bah oui.
Donc voilà, c'est savoureux à plus d'un titre, les guerriers du Bronx numéro 2. Et j'aimerais aussi saluer la grande poésie qui se dégage.
Les dialogues, bien sûr.
Voilà,
et
les dialogues.
Quand même, là, on est à un niveau rarement atteint.
Et oui, parce que, par exemple, petit frôlorilège, nous parlions tout à l'heure, donc je vais reciter son nom, même si je suis vraiment ceinture blanche en italien,
Giancarlo
Prete, qui jouait donc dans Les Nouveaux Barbares, qui faisait le sort de Mel Gibson de film-là. Donc c'est lui l'autre héros du film, pour seconder Trash, si je puis dire. Et donc il vit tout seul, lui, avec son fils, dans une cave, enfin dans une ruine. Et donc à la première rencontre de ce garçon avec Trash n'arrive pas seul, puisqu'il arrive avec une copine.
Ouais.
Et donc la première chose qu'il dit à la fille, hein, je cite, je veux bien que tu me la suces, mais surtout faut pas l'avaler. Voilà. Quand tu rencontres une fille pour la première fois, évidemment.
C'est la troisième phrase qu'il échange avec elle, je crois.
C'est quand même, on sent déjà une certaine proximité entre eux. Et puis,
lui, il la sent,
oui,
je sais
tout
pas.
À fait. Et puis après, Trash lui répond, en gros, il lui dit, il faut que tu viennes avec nous, il faut que tu nous aides. Et lui dit, toute façon, t'en as pas marre de passer ton temps à te branler ici. Et l'autre lui répond en regardant la fille, t'inquiète pas, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut.
T'irais comme un rat à te masturber.
Tu oublies que j'aime me masturber, mais maintenant c'est plus la peine.
Voilà, donc c'est de la poésie, du respect, du respect des femmes, évidemment. Voilà, on voit comment les femmes sont traitées dans ce film à travers leur rôle. Et c'est vrai que ça, il faut quand même saluer cette envie de bon goût. De la part du réalisateur. Voilà, que dire d'autre de ce film?
De ce film, pas grand chose. Peut-être un petit aparté sur Marc Gregory.
Tout à fait,
qui a quand même une fin un peu triste, puisque c'était un grand géant musculeux, un peu taciturne, et qui nous a bien fait marrer, et dont on s'est bien foutu de la gueule dans ses films. Mais en fait, il semblerait tourner, on vous l'avait dit dans sa filmo, voilà, il a tourné quelques autres films derrière, et puis il a arrêté, brutalement, du jour au lendemain, il a arrêté le cinéma, il est revenu à sa première passion familiale, quand même, le dessin et l'art religieux.
Oui,
le mec, il peignait des manones.
C'était dingue.
Il peignait des manones dans la banlieue romaine, et il a eu un peu de succès jusqu'à ce qu'il se fasse arnaquer et dépouiller, escroquer, dépouiller de tout son argent.
Ouais.
Et il est parti sur les routes dans une espèce de délire un peu mystico, ésotérique. Il est devenu à moitié ermite et il a été retrouvé mort parce qu'il s'était suicidé. Ouais. Je crois que c'est
en 2013.
2013, voilà.
31 janvier 2013. Voilà, c'est un peu triste, et c'est toujours un peu triste a posteriori quand on voit ça, parce que finalement c'est ces types-là qui jouaient bien ou pas bien, bon, bah, quand on les voit dans ces films, ils sont en pleine force de l'âge, dans la pleine...
Les Guerriers du Bronx, je vous rappelle, il a été découvert dans une salle de muscu, avait 17 ans.
Et voilà. Et donc, c'est à la fois pour eux une bénédiction à ce moment-là. Ils se disent, peut-être je vais faire du cinéma, tout ça. Et puis, on voit à quel point ça plombe toute leur vie, parce que derrière, ils font que des films très mauvais, évidemment. Leur carrière ne décolle jamais. Et puis, ils se retrouvent. Et il n'y a pas que cet exemple. Marc Grégory, il y en a d'autres que lui qui ont mal fini, très mal fini, et qui pourtant ont eu leur moment de gloire. Ouais, et quand on les revoit dans ces films-là, on les revoit quand même avec plaisir. Et quand on a cette deuxième lecture-là, bah, on est quand même toujours ému de savoir comment ils ont fini ces types-là.
Et là, il y en a un dans le prochain film, par contre, qu'on va voir, qui lui a mieux fini que Marc Grégory, heureusement. Hein,
il n'y a pas que des histoires sordides.
Ouais. Mais qui aurait bien fait de ne pas tourner dans celui-là, quand même.
Tout à fait. Hein. Troisième film, Lockout.
Oh là là, mais oui, Lockout.
Lockout, film de 2012, titre québécois, Sécurité maximale. Voilà. T'as vu, je fais mieux l'accent québécois que italien, j'ai l'impression, quand même.
Tu pratiques plus aussi.
Ouais, je pratique plus. Lockout, c'est un film que l'on doit à deux réalisateurs. Ils se sont mis à deux
pour commettre ça, quoi.
James Mather et Stephen Saint-Léger.
Ouais, il n'a pas été léger sur le réal.
Non, ils ont même eu la main lourde.
Ouais.
Donc deux réals irlandais qui avaient été découverts avec un court-métrage qui s'appelle Pray Alone, et depuis ils n'ont pas fait grand-chose, si ce n'est quelques épisodes de Viking, quand même, la série Viking. Voilà. Mais bon, voilà. Budget de 20 millions de dollars, tout de même. Recette mondiale de 28 millions de dollars. Donc bon,
c'est pas une franche réussite, quoi. Ouais, c'est commercialement pas une franche réussite.
Et puis, on le verra, ça a coûté.
Ça a coûté un peu plus cher derrière.
Plus cher que prévu. Au scénariste et producteur, j'ai nommé Luc Besson. Voilà. Et sa société de production EuropaCorp, puisque vous savez que Luc Besson, il est connu pour avoir créé avec EuropaCorp, il a fait beaucoup beaucoup de séries B, les Taken, les trucs comme ça. Donc c'est souvent des feats vite emballés, action efficace. Souvent, quand il y en a un qui marche, ils font des suites. On compte plus les suites des films de Liam Neeson.
Ouais.
Mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils font des choses comme ça, ça leur permet aussi de produire des films
qui sont
largement mieux. Ils ont quand même fait Les Petits Mouchoirs, L'Homme qui voulait vivre sa vie, Saint-Laurent aussi. Mais bon, combien de bouses ils ont faites pour en arriver là. Et je me souviens avec émotion d'une grosse bouse qui est quand même produite par Europa, qui est From Paris with Love.
Avec Travolta.
Et alors, pour l'anecdote... Travolta chauve. Pour l'anecdote, il y a quelques années, j'avais été invité dans les locaux de EuropaCorp avant que le film sorte, figure-toi.
Ouais.
Ils avaient une salle de projection au sous-sol et j'étais là avec une équipe pour voir le film avant qu'il sorte, parce qu'on devait développer une application, figure-toi, mobile pour la sortie de ce film.
Et t'as renoncé quand t'as vu le film.
Écoute, on a fait renoncer, on n'a pas été déçus, parce qu'une fois que t'as la projection, tu dis waouh, tu leur dis waouh, what a wonderful film, magnifique, tout ça. Alors qu'en fait, tu sais que t'es conscient que t'as vu une énorme bouge. Et on avait pondu une application mobile on a fait ce qu'on pouvait, mais c'est vrai que quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, ce film ne marchera jamais, c'est pas possible, une catastrophe. Et EuropaCorp, ils ont fait vraiment énormément de boosts comme ça. Donc ils ont produit Lockout, et il y a qui dans Lockout?
Guy Pearce,
un acteur qu'on aime bien, un acteur australien.
Oui, honnêtement, voilà, pas mal du
vrai,
tout.
On l'aime bien.
C'est vrai. Hein.
Il a été
découvert, je crois, dans Priscilla, Folle du Désert. Le mec a démarré sa carrière en drag queen.
Ouais.
Bon film, très bon film.
Il a une bonne filmo, il a joué dans Memento de Nolan quand même. Memento, c'est quand même un super film qui se passe tout à rebours.
Le discours d'un roi.
Prometheus, plus récemment. Et Iron Man 3, il fait le méchant d'Iron Man
3. Et il avait joué dans LA Confidential aussi.
Tout à fait.
Donc le mec est plutôt solide, assez polyvalent.
Ouais, il y avait eu le remake c'est pas un grand film, La Machine à explorer le temps, qui était un remake du film tiré d'H.G. Wells. Et puis moi, un film qu'il a fait.
La Route aussi. Il est dans La Route avec Viggo Mortensen.
Il a un
petit rôle dedans.
Tu as raison.
Un vétéran, je crois.
Il y a Vorace d'Antonia Bird que j'aime beaucoup, qui se passe pendant à la fin de la guerre de sécession, cannibalisme autour de soldats qui sont dans un fort, retranchés dans un fort dans le nord, qui est vachement bien, Vorace. Voilà, et on retrouve qui d'autre ?
Maggie Grace.
Maggie Grace.
Alors, la femme du président, hein, parce que c'est, on vous l'a dit, hein, c'est le président ou la fille du président. La fille, c'est la fille, pardon, pas la femme.
Là, c'est la fille. C'est la fille.
Toujours la fille ou le président.
Qui joue aussi la fille de Liam Neeson, ouais, hein, dans les Taken.
Tous les Taken, voilà, ouais.
Qui ne sont pas allés la chercher bien loin, puisque c'est tout ça les
premiers. De toute façon, elle a fait Taken et Twilight. Elle, je crois qu'elle n'a pas fait grand-chose d'autre.
Oui, bah,
les Twilight oui, et les Taken.
Les Taken, quoi. Voilà. Et on retrouve alors, un acteur qu'on aime beaucoup aussi, dont on a déjà parlé, notamment dans Armageddon. C'est Peter Stormare, acteur suédois au départ, mais qui a une gueule, comme on dit.
Ah, puis très bon acteur, ouais, très bon acteur, il a une belle flimo, ouais, hein, ouais. Le mec, il a quand même aligné des, tu vois, des Fargo, des Code Mercury, des Minority Report.
Le Monde Perdu, ouais. Jurassic Park, Le Monde Perdu, la série Prison Break, évidemment.
Il a fait un John Wick.
Ouais, John Wick 2,
ouais.
Effectivement. Et puis même, il prête sa voix dans pas mal de jeux vidéo, ouais. Enfin bon, il est assez, assez iconique. Alors, bah, tu vas nous dire, Lockout, alors c'est le petit pitch.
Allez, un petit pitch, mais bien sûr, un petit pitch. Eh bien, quand la fille du président se retrouve à visiter une prison en orbite dans l'espace, où l'on met en stase les prisonniers trop déglingos pour vivre sur la Terre, vous vous en doutez, ça ne se passe pas comme prévu. Mutinerie, prise d'otage, et tout le monde se retrouve dans de beaux draps. Et pour s'en sortir, on fait appel à un mec qui est un ancien policier, piégé dans une sombre affaire et qui pourrait bien trouver le moyen de se racheter, mais aussi de prouver son innocence en grimpant là-haut. Bref, il doit récupérer la fille du président et la ramener saine et sauve. Ça ne vous rappelle rien ?
C'est bizarre.
En tout cas, ça a rappelé deux, trois trucs. À
John Carpenter.
Personne, voilà.
Exactement, parce qu'on peut en parler tout de suite. Bah mais oui. Un truc à retenir de ce film, hein, c'est que, évidemment, comme Carlito vient de le pitcher brillamment, on voit clairement d'où ils se sont inspirés. Voilà. Et donc, de New York 1997. Et donc, figurez-vous que il y a tout de suite, à la sortie du film, un contentieux, puisque John Carpenter, notamment, et la boîte qui a produit le premier New York, attaque Europacorp pour plagiat, tout simplement.
C'est vraiment que des porcs en plus.
Europacorp, c'est des gros porcs. Ouais, tout à fait. Europacorp sera condamné déjà en 2015.
Ouais.
Ils font appel, ils sont recondamnés en 2016, hein, donc les mecs quand même, ils y croient pour être sûrs. Et donc Besson et ses co-scénaristes, et les réals aussi, sont condamnés à verser 100 000 euros à John Carpenter,
ouais.
40 000 euros à Nick Castle, hein, qui donc a co-écrit, on l'a dit dans notre
exactement.
Premier épisode autour du culte consacré à New York 1997, premier épisode de ce thème, sortez-le de là. Nick Castle a co-écrit avec Carpenter, donc New York 97, donc 40 000 euros pour Nick Castle.
Et 300 000 boules.
300 000. Ah, Studio Canal,
exactement.
Qui gérait les droits d'exploitation. Donc, clairement, la justice a reconnu que Lockout était un énorme plagiat de New York 97.
Ouais.
Mais néanmoins, le film est sorti. Et donc, Lockout, c'est particulier parce que c'est du 97, Lockout, mais c'est plein d'autres trucs aussi.
Ouais, il y a du John McClane aussi dedans, c'est clair, c'est très clair. Clairement. Hein.
C'est clair.
On ne peut pas dire le contraire. Hein. C'est-à-dire que le mec qui est là, qui est tout seul, il y a des otages, il doit les libérer, il y a plein de terroristes, de prisonniers qui sont échappés. Enfin, voilà, c'est quand même un peu
du
fil blanc.
Il y a de la vanne à tour de bras, c'est un héros qui vanne beaucoup.
Ah là là, j'ai détesté. Hein. J'ai, pour le coup, je l'ai noté dans les notes que j'ai prises, le ton et les vannes du héros là, qui s'appelle Snow, il s'appelle pas Snake,
il s'appelle Snow.
Franchement, prenez-vous pour des jambons.
Je me suis demandé s'il s'appelait Snow parce que je me suis dit en fait, est-ce que c'est pour Snake ou est-ce que c'est une petite référence à Let It Snow, la chanson à la fin de Die Hard, tu vois.
Il y a peut-être un peu des deux, parce qu'il ressemble un peu aux deux.
Ouais,
mais pour le coup, l'humour est quand même beaucoup moins maîtrisé que par un Bruce Willis.
Hein. Ah bah, il y a deux trucs qui m'ont un petit peu, dans ce registre-là, où on voit à quel point c'est lourdingue.
J'ai des exemples, hein. J'ai des petits extraits à vous passer, hein. Vous allez bien voir je crois qu'ils viennent de se rencontrer, ils viennent de retrouver la fille du président effectivement vous allez voir ce qui se passe.
Qui vous a envoyé ?
Ton père.
Mon père ? Vous avez un message pour moi ?
Ouais, t'as été adopté.
Voilà, donc le type d'humour pratiqué par le héros. Moi, j'en ai une autre, c'est une scène où elle tombe d'un plafond, elle lui tombe entre les jambes. Elle a la tête entre les jambes, elle lui dit « Ah non, non, vous ne sentez pas obligé. » Et puis quand même, il y a un personnage, il y a une scène où il y a un Asiat. Il lui donne le nom de l'Asiat en question, il lui dit « Ah, mais il s'appelait Fuck You
!»
Voilà, sympa. Donc c'est super lourdingue.
C'est ultra bas du front.
Ultra bas du front, donc ça c'est pas très bien réussi. Paraît-il que le pour te dire les références, que le nom de travail du film, quand ils écrivaient le scénario, le nom de code du scénario, c'était Piège en haute sphère.
Ouais, bah voilà. Non mais attends, je vais te dire ce que dit le réalisateur Stéphane Saint-Léger de l'humour dans son film. Chacun a sa conception de l'humour. Pour moi, le maître en la matière reste Billy Wilder. Mm-hmm. J'adore la saga Die Hard. Mm-hmm. Il ne lui rend pas justice. Ouais. Hein. Ou encore à la poursuite du diamant vert. C'est le genre d'humour que l'on retrouve dans le film. Non. L'humour dans ce film, c'est tout sauf ça.
Et tout à fait. Bah justement, la scène dont je viens de parler, là, où elle lui tombe entre les jambes, il y a un équivalent dans la poursuite du diamant vert.
Bien sûr, quand il glisse, il y a un glissement de terrain, que c'est joué différemment.
Exactement.
Elle lui atterrit aussi entre les jambes, mais
ils n'en font pas 3 tonnes autour, en plus. Voilà, c'est pas la peine, on comprend bien
l'allusion
et la particularité de la scène, mais ils n'en font pas 3 tonnes. Après, dans ce film, il y a aussi un petit peu, et quand même, rendons hommage à la référence, film aussi culte évidemment, Fortress évidemment.
Ah oui, mais
je dirais même Fortress 2.
Oui, c'est vrai. Oui, plus le 2.
Nous parlions tout à l'heure dans culte de l'énorme, du magnifique, du majestueux Christophe Lambert, puisqu'on parlait un peu de Beowulf. Et là, en fait, ce film-là.
On en parle plus un jour.
On parle de Christophe Lambert, ça vaut le coup. Même un épisode spécial.
Ah ouais.
Faut qu'on fasse un Highlander un jour sur les Immortels.
C'est vrai.
Il y a quand même d'autres choses à faire, évidemment. Et donc, Fortress 2, donc dans Fortress, c'est une prison hautement technologique mais qui est sous terre et donc ils doivent sortir. Mais dans Fortress 2 qui est encore plus fauché que le premier et qui est carrément encore plus... le premier pas raté, le deuxième est une foirade, mais c'est une prison dans le ciel quoi,
c'est dans le ciel. Ouais.
Donc là c'est clairement inspiré de ça aussi quand même. Le mec il prend comme référence Fortress 2 quand même. tu vois le Die Hard je peux comprendre, mais Fortress 2 c'est quand même bref, donc hommage à Christophe Lambert. Et puis évidemment beaucoup, mais ça on l'a dit, de New York 1997.
Ouais.
Donc Lockout, c'est un petit mix de tout ça, mais en raté. Si on débranche le cerveau, ce qu'on sait bien faire.
Ah oui, on aime bien.
On peut apprécier le film. Mais si le problème, c'est que c'est sympa de faire des hommages et des références, mais de là à plagier complet, c'est un peu.
Ouais. Honnêtement, ça décolle pas des originaux et c'est pas le rythme est intéressant, le truc est pas mal réalisé, c'est vrai, et on voit que les mecs se démerdent bien sur toutes les scènes d'action, etc. Mais y a un moment où t'apprends rien, t'es surpris de rien, tu connais déjà l'histoire et toutes les refs tu les as et donc tu t'ennuies quoi. Et en plus, l'humour m'a tapé sur le système.
L'humour plombe, c'est vraiment too much. En plus, les effets spéciaux. C'est-à-dire
que le mec, il te fait un mix entre McLean et Snake. Quoi.
Oui,
donc,
oui.
D'un côté, il est renfrogné, machin, et de l'autre côté, il fait des vannes foireuses. Donc, choisis ton combat, mec.
Oui, choisis ton camp. Et puis, quand tu fais des vannes, essaie de faire des vannes un petit peu mieux senties, quoi. Donc là, c'est too much. Donc, les effets spéciaux, en plus, sont globalement assez ratés. Donc, ça marche pas bien. On ne pouvait pas ne pas vous en parler parce que c'est vraiment un vrai plagiat de.
C'est avéré, la justice a tranché.
Si, à la limite, ce que je trouve encore plus foutage de gueule, c'est que c'est pas la première fois que Besson finalement copie New York 97 parce qu'il avait fait Banlieue 13.
Ouais.
Banlieue 13, il y a déjà des emprunts assez forts. Donc, c'est vraiment. Ça ne l'a pas. Dérangé d'aller encore plus loin dans le plagiat avec ce film-là.
Ouais.
Regardez-le si vous avez envie, vous passerez un bon moment, mais on va tout de suite passer
avec un petit chef-d'œuvre. Un
morceau d'anthologie là aussi. Alors on enchaîne tout de suite avec notre dernier film qu'on va traiter dans cette rubrique.
Ah, mais vous avez raison d'être resté jusqu'au bout parce que celui-là.
Il vaut son pesant de cacahuètes. J'ai nommé film de 1983. Attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour. 2019, après la chute de New York.
Et quelle chute!
Et quelle chute en beauté! Alors, c'est un film de Sergio Martino, donc qui est un réalisateur italien, comme son nom l'indique, qui est assez éclectique, puisqu'il a fait de la SF, de la comédie, il a fait Le Continent des Hommes-Poissons.
Hein, ah, ça, bon. C'est pas rien.
Il a fait quand même Atomic Cyborg.
Aussi.
C'est pas rien non plus. Et je tiens à dire tout de suite, pour vous donner le niveau un petit peu du film, c'est que ce film a été produit par les films du Griffon. Et qui trouve-t-on derrière les films du Griffon? On trouve Max Pécasse, les amis.
Eh ouais.
Et Max Pécasse, qu'est-ce qu'il a fait? Petit rappel, hein, mais vous
le
savez tous.
On se calme et on boit frais à Saint-Tropez.
Deux Enfoirés à Saint-Tropez.
Ouais, ouais, c'est tout est à Saint-Tropez chez Max Pécasse.
Tout à fait en général. Et puis, je ne peux m'empêcher de citer ce titre mythique. Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Voilà, donc c'est toute une époque.
Des moments de vérité, quoi.
C'est toute une époque, les branchés à Saint-Tropez. Il a fait aussi Apocalypse dans l'océan rouge. De Lamberto Bava. De Lamberto Bava. C'est les dents de la mer avec une pieuvre, quoi. Tu vois.
Ah,
mais
ouais,
c'est
okay.
Pas le pire. C'est pas le pire celui-là. Bref, donc c'est produit par Max Pécasse et compagnie. Et puis, alors on dit quand même de 2019, hein, quand même, que c'est un petit peu le. C'est le film qui marque la fin un petit peu de l'âge d'or du bis italien.
Tu veux dire qu'il l'a enterré des
films qui font. Voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il l'a enterré. Cette époque où on compensait tout le manque d'argent, le manque des moyens par de l'intro, de l'improvisation, de la fantasy, tout ça. Enfin, on connaît tous ces films, mais après celui-là,
non,
quand même...
Ouais. Ils sont allés un cran trop loin.
Bon, ils sont allés... C'est la fin d'une époque, si je puis dire, après. Oui. Alors, qui on retrouve à l'affiche de ce film? Alors, petit point rapide sur le casting. D'abord, le personnage principal, Percival... qui est incarné par Michael Sopcui. Il n'y a
c'est
pas un nom facile à dire parce que ça s'écrit comme kiwi mais sans le i à la fin, donc c'est Sopcui.
Ça, c'est dur.
C'est dur. Donc c'est le premier rôle du film. Alors il était marin au départ, ce garçon.
Et il aurait dû le rester.
Il aurait dû le rester. Il a été aussi incarcéré 2 ans pour trafic de marijuana à l'époque.
Ah, il n'était pas marin, il était passeur en fait.
Voilà, il était passeur. Il fera quand même dans sa carrière 4 films après celui-ci, dont Blast Fighter. Ouais.
La prisonnière de la vallée des dinosaures. Voilà,
magnifique.
Le monstre de l'océan rouge.
Super.
Et
2019, voilà. Donc il a un petit air de Terence Hill, il y a un truc dans le les yeux bleus. Il m'a fait penser un petit... Mais il fait surtout Steak Plissken du pauvre.
Vraiment.
Et alors, ce qui est marrant avec lui, c'est qu'après, il arrête complètement sa carrière, il s'intéresse aux plantes, et puis figure-toi que c'est lui qui va importer les vers violets en Italie, les vers qui s'adaptent à la lumière. Les vers anti-lumière d'écran, et il en vit très bien, en fait.
Ah bah oui, tu vois,
depuis, donc c'est plutôt marrant. On retrouve aussi au casting Edmond Purdom, qui joue le président.
Ouais, donc, qu'on voit pas beaucoup, hein.
Non, on le voit pas beaucoup, mais...
Pas fou, non. Et, il s'est préservé.
Edmond Purdom, c'est assez marrant parce qu'il aurait pu avoir une très grande carrière à Hollywood. Il en était jusqu'à remplacer Marlon Brando dans une grosse production notamment. Mais alors après, entre les frasques familiales et puis des mauvais choix de carrière, il a jamais décollé. Et c'est sa fille qui fera même un livre... À son propos qui s'appelle Hollywood Garage qui raconte en fait cette histoire d'une carrière complètement ratée, et c'est intéressant de voir à travers ce livre comment on peut complètement passer
à côté,
en tout cas cette époque-là, Hollywood, d'une énorme carrière à quelque chose près.
Mais, il suffit parfois de peu de choses. Hein.
Quelques ratages qui ont eu des gros succès, quelques mauvais choix, puis le gars, il finit dans 2019, après la chute de New York.
La dégringolade, quoi.
Voilà, qui on retrouve dans ce film, on retrouve aussi évidemment...
George Eastman, de nouveau. Trois fois à l'honneur, quand même, chez nous.
Qu'est-ce qu'on parle de lui
Et Al Yamanouchi. C'est celui qui joue le roi des chasseurs d'aura, là.
Ah oui.
Comme personnage, je crois, un peu asiatique. Il a joué dans Sinbad aussi, dans Les Héros de l'Apocalypse. Je crois qu'il était un peu l'asiatique de service dans les films italiens des années 80, dans les films bis, je crois.
Et puis il y a quand même un personnage féminin dans ce film.
Anna Kanakis.
Il y a Anna Kanakis, effectivement.
Elle était réputée quand même pour... Alors je crois qu'elle était réputée pour arriver à obtenir ses rôles par des entre-gens des entrefaites, des entre, enfin des trucs un peu,
un peu chelou quoi.
Ouais, elle les obtenait pas qu'au talent quoi. Elle avait des gens, elle connaissait des gens un peu influents et elle arrivait à se faire inviter sur les plateaux.
Un peu placée quoi.
Ouais.
Oui, mais je crois d'ailleurs qu'elle était. Oui, c'est ça. C'est que là, elle a carrément décroché un rôle parce que je crois que le réal l'a placée hein, sur le film, hein, il me semble. Voilà. Je sais plus pour quelle raison,
mais c'était un peu ça.
Voilà, c'est un peu ça. Et puis il y a aussi Valentine Monnier.
Enfin, en même temps, j'aurais été elle, je ne serais pas battu pour être placée là-dessus.
Mais non, bon, c'est sûr. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Peut-être qu'on, pour ça qu'on la voit plus beaucoup après ce film. J'aurais peut-être compris que le cinéma c'était pas si fantastique que ça. Et donc Valentine Monnier qui a joué dans Elle voit des nains partout.
Oui.
Dans Trois hommes et un couffin aussi. Ouais. Et puis qui est devenue photographe hein, de guerre, hein, donc tout à fait photojaune. Elle a
elle
fait
est,
parler
elle
d'elle
était,
aussi.
Mannequin, je crois, au début.
Ah oui, hein, tout à fait.
De sa carrière.
Et alors et c'est notamment pour ça d'ailleurs qu'elle a eu affaire à Roman Polanski puisque elle l'a accusé hein, de l'avoir violée.
Exactement.
En 1975. Roman Polanski qui, on le sait, traîne quelques casseroles quand même.
Ben oui.
Dont celle de Valentine Monnier. Alors, eh ben écoute, je serai avec grand plaisir que je te demanderai, cher Carlito, de nous faire le pitch de ce film fantastique.
Écoute, ben, c'est pas si facile que ça à résumer, parce que celui-là, c'est quand même un sacré bordel. Hein. Enfin, si t'as vu Mad Max, New York, 1997,
je l'ai vu.
Les Guerriers du Bronze,
je l'ai vu.
Et Cyborg avec Jean-Claude Van Damme,
je l'ai vu.
Normalement, tu dois pouvoir t'en sortir. Imagine juste qu'un esprit malade foute tout ça dans un checker et prenne ce qu'il en sort pour un scénario. Voilà, c'est un peu ça, 2019 après la chute de New York. Si tu rajoutes à ça le fait que le réalisateur en question est fauché comme les blés, t'as une petite idée du rendu. Bref, un beau héros doit retrouver et sauver la seule femme encore fertile de cette planète mourante qui est devenue la Terre. Et elle se terre dans un New York des années 3000 tout chelou, poursuivie par des Eurax, c'est une espèce de CRS à cheval à la matraque facile du futur. Bien entendu, leur route sera longue, semée d'embûches, avant qu'ils ne puissent la foutre dans un vaisseau pour repeupler à elle seule une autre planète, puisque celle-là, on l'a vraiment trop bousillée.
Eh bien, tout à fait. Et donc, on peut dire que les Orax aussi, ils ont dû tomber sur un stock de masques de Kendo. Puisque,
clairement.
Voilà.
c'est clairement du Kendo. C'est clairement un masque de Kendo. Hein.
Clairement ça.
Ah, ouais.
Ils sont équipés avec ça.
Ouais.
Et d'ailleurs, tu parlais du budget famélique du film, mais je cite ce que nous dit le personnage principal qui nous dit « J'ai été payé assez pour m'acheter une moto, mais pas de carburant dedans. » Donc, ça peut bien dire que c'est pas avec ce film qu'il a pu se payer sa retraite. Voilà, donc c'est complètement foutraque, effectivement, le film en question. Et alors, il y a plein de trucs très très savoureux, hein, quand même, dans ce melting pot.
Oh, ouais.
Bon, déjà, beaucoup de maquettes, une fois de plus.
Ah, bah oui.
Toujours des maquettes.
Non, mais évidemment.
Voilà, ne serait-ce que dans la fameuse scène du début. Qui se donne du mal pour essayer de faire croire que vraiment
oh
c'est
non, s'il te plaît, la scène du début, quoi, sans déconner. Non, mais t'as quand même tout ouvre effectivement sur des espèces de maquettes en ruine filmées pas très bien. Tu vois une espèce de clono qui est là, qui joue de la trompette, s'arrête de jouer de la trompette pour tout expliquer que les corporations ont foutu le bordel, fait péter la bombe et que maintenant c'est la merde. Qu'il y a des mutants partout et qu'il n'y a plus aucune personne sur Terre qui arrive à faire des enfants et que donc la race humaine est condamnée.
Et oui. Et puis du coup, les humains ont fabriqué des robots, des cyborgs, toutes sortes de choses.
Ça, on ne te le dit pas, en fait. Tu le comprends au long du film parce qu'on oublie de te le dire parce que finalement, ils vont juste dire... Ils comprendront, c'est pas grave.
Oui, tout à fait. Mais je note ce point commun dans le générique entre la trompette du début dans celui-là
et
la
tambour,
batterie dans Les Guerriers du Bronx. C'est pas, ils avaient une assurance comme ça, ils devaient se dire que ça donnait
de l'emphase. Il devait y avoir eu un film qui ouvrait comme ça.
Ouais.
Et donc ils se sont dit, putain, c'est bien ça, on va le faire aussi.
Ouais, et puis ça, du coup, ça dure un certain temps et comme ça, ça remplit un petit peu les vides. Voilà.
Ouais.
Donc, très vite après cette introduction, tu as une référence à la course à la mort de l'an 2000, parce tu retrouves Percival une voiture custom en train d'affronter, de faire une course à mort avec d'autres voitures.
Mm.
Et à l'issue de cette course, il gagne. Et là,
qu'est-ce qu'il gagne ?
Première surprise énorme, il gagne quoi ? Il gagne un robot hermaphrodite esclave. Robot, je ne sais plus, mais hermaphrodite, esclave.
Est-ce qu'hermaphrodite, c'est clair, voire c'est clair. Carrément travelot de service, oui, hein, parce que le truc, est, c'est, la nana, elle a été surmaquillée.
Oui, machin, c'est vrai qu'ils ont un petit peu surjoué.
Et on ne sait pas trop si c'est un robot ou pas, je ne crois pas, mais du coup, bon, tu te dis, tiens, l'esclavage sexuel est revenu à la mode, voilà, pourquoi pas.
Allez, mais il a bon fond, Percival, parce qu'il la laisse partir très vite, en fait.
Oui, bah, voilà. Il la trouve pas à son goût.
Et puis c'est bon, il a le cœur sur la main, quoi.
Ouais.
Donc Percival, et puis on lui dit très vite que il est convoqué. Ah oui, il y a un vaisseau spatial qui arrive. Enfin, on l'amène au pôle Nord avec un peu de neige artificielle. Ouais.
Hein, parce que c'est là qu'il faut le comprendre. Hein. C'est pas facile quand même. Des fois, c'est pas évident. Évidemment, le gouvernement des humains gentils s'est établi en Alaska, je crois, au pôle Nord, ou je sais plus où. Donc voilà, et ils vivent dans des vaisseaux spatiaux là-haut, je sais pas quoi, un truc un peu bizarre comme ça.
Bon, ils croisent le président, qui est là, le président de toute l'humanité, hein, c'est le président de tout le monde. Et le président lui confie cette fameuse mission, donc, et là, il lui dit, attends, tu seras pas tout seul, mec.
Tu vas avoir deux potes.
Voilà, et là, t'as quel pote ?
Deux potes un peu diminués.
Parce que quand tu les vois arriver, moi je voudrais arriver ces mecs-là, je veux dire, écoutez, je préfère y aller tout seul.
Ouais, c'est
vraiment,
clair.
On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Parce que donc le premier.
Il y en a un qui a un crochet.
Voilà, donc le mec il a un crochet, tu sens qu'il est déjà diminué. Voilà.
Et l'autre il a un bandeau à l'œil, coucou Piscone.
Voilà, c'est coucou Piscone, mais en beaucoup moins charismatique. Espèce de grosse montagne avec ce truc. Donc ces mecs-là vont l'accompagner et vont l'aider dans sa mission. Et là, on arrive très vite à une deuxième scène qui n'est pas piquée des hannetons, si je puis dire. C'est qu'à un moment donné, il tombe sur des gens et des survivants. Et les survivants, comme il n'y a plus de femmes fertiles, il n'y a plus d'enfants.
En fait.
Et tout à coup, ils pensent voir un enfant. Ils disent, poursuivez cet enfant. C'est pas un enfant, vous l'avez compris. C'est un nain.
Oh, mais c'est magique.
Voilà, donc c'est sympa pour les personnes de petite taille. C'est que voilà, on prend le.
Ils
on
sont
le
plus à sa près, les mecs. Hein, ils vont franco. Hein,
Et donc, ce nain, cette personne de petite taille, va accompagner le héros et ses acolytes toute une partie du film, jusqu'à, et parlons-en tout de suite, parce que finalement, pas la peine de faire le film dans l'ordre, c'est pas très grave.
Oh non.
Jusqu'à une scène d'anthologie où le nain. Se suicide.
Se sacrifie.
Se sacrifie.
Ah là là, c'est génial.
Dans une case d'automobile pour ne pas avoir à révéler où se trouve quelle est la mission du héros. Et donc.
Ah non, mais c'est un suicide ridicule, quoi. C'est vraiment. Le mec, il s'empale volontairement sur une espèce de bout de métal. Mais on le voit bien qu'il est complètement arrondi, le truc. Il ne peut pas s'emballer dessus.
Ah oui, puis.
S'emballer dessus puis, à deux à l'heure.
Ah
quoi.
Oui, à deux à l'heure. Et puis, boum. Et puis, voilà, il meurt comme ça.
C'est horrible.
Il s'empale sur un bout de carrosserie de voiture, mais tout seul, quoi. C'est
pour faire gagner du temps, pour que les autres puissent avancer. Enfin, vraiment.
Bon, donc on ne s'y attend pas du tout, mais c'est sûrement la scène de suicide la plus ridicule de
l'histoire. Vraiment très bien du
cinéma. Donc. Il y a ça.
Il y a des gens dans des caissons aussi. Hein.
Oui, il y a des gens dans des...
Il faut quand même pas se parler des gens en hibernation. Il y a une dame en hibernation qui est la fameuse femme, la seule dernière femme fertile sur la planète.
Et oui.
Bon, il y a quand même quelqu'un à un moment qui pose la question, mais une femme, vous êtes sûr que ça suffira ? Et on explique, mais t'es con ou quoi ? Regarde, une femme, c'est 500 ovocytes, on va prendre tous ces ovocytes. Et puis on va en faire des enfants.
Ben oui.
Et après 3 ou 4 générations, ils sont tous consanguins, mais on s'en fout. Hein.
Je me demande s'il lui dit pas à un moment donné, d'ailleurs, mais regarde, Adam et Ève, il n'y a que deux.
Ouais.
Il n'y a pas à un moment donné, ils sortent
peut-être
un truc comme ça.
Ouais.
Ils sont capables, j'ai cru entendre ça. Et donc, alors parlons de cette fille sous le caisson, parce que cette fille sous le caisson, donc, très vite, finalement, il y a quand même un personnage. Du film.
En fait, il aurait pas dû être. Je pense qu'il n'aurait pas dû être aussi phare, mais il était tellement bien dans son rôle.
Ils se sont dit on va le faire durer un petit peu. Quoi.
Il s'est répandu.
Alors on vous a dit que dans ce film il y avait George Eastman dont on a souvent parlé, puisque il a joué dans Les Nouveaux Barbares, il a joué dans un tas de films, il en a même réalisé Texas de Gladiator. Donc George Eastman, très très grand. C'était un petit peu du coup une petite vedette à l'époque. Et donc là, on le retrouve dans un rôle très très impressionnant, puisqu'il joue Big
Man
Ape, l'homme singe finalement, ou le grand singe. Et il est hyper poilu, hein, il a une pilosité.
Ah, c'est une espèce de croisement entre un humain et un néandertalien, quoi. Il a les sourcils d'un néandertalien.
Ah, oui. Il est habillé un peu comme Fred Williamson dans Les Guerriers du Bronx, avec des trucs satinés qui brillent, tout ça.
Mais
des
en mode néandertal, quoi.
Voilà. Et il a des poils improbable. Partout. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait, il est entouré d'hybrides d'hommes et de singes qui s'avèrent être ses enfants. En fait,
oui, tout à fait.
Ce qu'il le dit lui-même, il a enfanté plusieurs femmes chimpanzés. Et en le disant, je me dis à quel point les mecs ont dû fumer pour prendre ça. Mais pourquoi ? D'où ça sort ? Bref, il a plein d'enfants chimpanzés.
Et il aimerait bien faire des enfants à cette femme fertile, et bordel.
Voilà, et voilà. Et quand il la voit dans son caisson, bizarrement, il décide de tous les aider.
Ouais.
Mais là, il a une idée derrière la tête.
Ouais.
Voilà. Il n'est pas complètement net. Ils auraient pu s'en douter un petit peu. Quand
même. Ah bah, il suffit de le regarder. On comprend très vite qu'il n'est pas net, le mec. Hein.
Regarder. Ouais. Et donc, quand ils ont le dos tourné, qu'est-ce qu'il fait ?
Il se barre avec le caisson.
Voilà. Et on ne sait pas trop ce qu'il fait avec elle. Mais non. On se doute.
Hein. C'est pas joli, voilà. Joli.
C'est pas joli, joli. Parce que je pense que... clairement, il a tout de suite vu qu'elle était sous GHB, quoi.
Ouais, bah oui. Alors, forte dose, hein.
Forte dose. Donc le gars, il en profite un maximum et il se dit, avec ça, je peux peut-être repeupler effectivement l'humanité, mais avec des hommes singes.
Bah oui, voilà. Bien,
Donc il y a cette scène avec Big Ape qui est bigger than life effectivement, puis tous ces chimpanzés. Alors déjà, voilà, donc ça c'est très très improbable aussi. Et j'aimerais. Ah oui, si. J'aimerais qu'on parle aussi quand même de. Alors souvent j'ai ma petite séquence Human Johnson dans les films.
Ouais.
Human Johnson hein, étant, je le rappelle à nos chers auditeurs et auditrices, ce mec qui sert à rien mais qui est juste là pour mourir. Et en fait, là, j'ai été quand même très surpris de voir que j'ai trouvé le premier Human Johnson grand méchant d'un film, en fait. Parce qu'en fait, le chef des Korax, là, le grand méchant qui est censé incarner la menace, etc.
Oui, et ben, en fait, il se fait buter comme une merde.
À part se faire buter comme une merde, deux fois, hein, je dirais, il sert à rien d'autre. Parce que je vous explique un petit peu la scène. C'est qu'il y a une première scène où il est en train d'interroger un mec, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Il l'interroge, mais il l'approche d'un peu trop près. Et alors, premier truc, le mec lui crève les yeux.
Ouais.
Hein, il lui crève les yeux comme ça à la main, tout ça, etc. Donc après, il y a une scène de chirurgie réparatrice,
c'est ça.
Charcutière, un petit peu, parce qu'il lui recolle des yeux. Mais
voir, c'est vraiment. On a l'impression qu'ils sont en train de réparer les yeux d'un ours en peluche, quoi. Tu vois, c'est.
Imaginez deux trous noirs avec en fait des imaginez du comment on pourrait dire deux saucisses Herta mises dans deux trous noirs en guise des yeux, c'est un petit peu ça ce qu'ils lui font au final. Donc il lui répare les yeux, donc déjà le mec il a quand même souffert, et à la fin en fait il est à peine revenu de ça qu'il se fait tuer par son acolyte, la méchante, qui est en fait la vraie méchante, et qu'il le tue. Donc ce mec ne sert à rien du film.
Non, clairement.
Il n'incarne aucune menace. Ouais. On se demande comment il a pu être chef.
Même les Zorax, en fait, tu vois, à part se balader à cheval, tu vois, et à buter tout ce qui passe, à filer des coups de matraque à tout ce qui passe, mais en fait, on n'a pas bien compris à quoi il servait non plus. C'est des oppresseurs, machin, ils sont là, mais. D'ailleurs, c'est drôle parce que justement, derrière ce chef là, dans son centre de commande, il y a quand même, je sais pas si tu l'as vu, il y a Guernica.
Ah oui, c'est vrai.
Tu dis qu'est-ce que ça fout là, quoi. La peinture de Pablo Picasso qui est là pour dénoncer les horreurs de la guerre, et c'est une espèce de SS à cheval là qui ont Guernica dans leur centre, le quartier général.
Oui,
quoi.
C'est vrai que ça, c'est assez incompréhensible. Le quartier général, parlons-en, puisque
les deux bureaux, quoi. Les deux bureaux et un couloir.
Deux bureaux et un couloir. Peut-être aussi, je pense, l'utilisation d'une usine laitière.
Il y a un truc dans le genre. Hein,
ils sont devant des grandes cuves en métal qui font furieusement penser à des cuves de stockage de lait.
C'est de la mozzarella di bufala.
Que dire non plus. Ah oui, tiens, dis donc, on parlait du nain, mais c'est quand même marrant parce que le nain, et ils l'ont appelé comment, le nain? Hein, ils l'ont appelé Shorty.
Ouais, c'est pas sympa.
C'est sympa quand même. Comme ce
mais alors, et alors, dans le genre.
Pardon, mais franchement, justement, c'est inadmissible.
Dans le genre dont chelou, le héros s'appelle quand même Parsifal. Quoi,
ouais, tout à fait.
Parsifal, c'est quoi? C'est Perceval.
Mais bien sûr.
Et Perceval, c'est quoi? Eh ben, c'est quand même, et là, c'est le moment intellectuel, hein, c'est la seule ref, tu vois. Ouais. Et Perceval, c'est quand même, voilà, c'est le mec dans la Légion arthurienne qui soit découvre, soit aide, ça dépend des versions, oui, à découvrir vrai. Le Graal, quoi. Et donc ici, on se doute que le Graal, c'est cette femme fertile. Quoi. Exactement. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé Perceval et qu'on l'a pas appelé Joel Clodo.
Et Joel Clodo. Pourtant, il ressemble plus à un Clodo qu'à Perceval. Mais néanmoins, il est pur, il est noble.
Comme ah ben, bah, il est hein, comme un chevalier.
Exactement. Alors, au début, on le voit dans sa voiture façon chevalier, c'est comme si sur sa voiture et son cheval, ouais. sa monture. Et puis il a quand après, même une côte de maille.
Après, il a une moto.
Et une côte de maille, s'il te plaît.
C'est vrai, t'as raison.
Il se balade en côte de maille, le mec, avec des gants et tout pendant tout le film. T'imagines le poids qu'il a sur le corps.
Ouais.
Je dirais que c'est quand même, il fallait quand même le jouer, ça. Hein, voilà.
Et il l'a pas joué.
Non.
On l'a filmé en train de marcher. Quoi, mais...
En parlant de côte de maille de métal, je fais une petite référence aussi à. Donc, on a dit que le héros est accompagné, flanqué de deux acolytes. Dont un qui s'avère en fait être un salopard de cyborg. Quoi.
Et c'est là d'ailleurs, c'est à 80% du film, 75% du film passé que tu découvres qu'il y a des cyborgs dans l'histoire. T'es pas au courant au début.
C'est vrai.
C'est dingue.
Et le cyborg en question, il a une arme tout à fait originale, puisqu'il a une espèce de boule.
Bolasse, qui
tourne comme ça très vite et qui.
Qui l'envoie.
Donc c'est assez ridicule ça. C'est vrai. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est la scène d'affrontement entre le cyborg à la fin et donc le héros. Puisque ça se bagarre quelques minutes avec donc des bruitages tout le long du film de grande qualité sûrement fait à la bouche et donc à la fin il se bat, il réussit à tuer le cyborg, je sais même plus comment, et alors là on voit effectivement l'effet cyborg pour montrer que c'est un cyborg avec un maquillage de pouilleux complètement raté,
et surtout c'est sa copine qui claque, oui, elle est tuée par ce salaud de cyborg.
Ouais, il était mal en point là, ouais. Exactement.
Ouais.
Exactement.
Et la fin quand même, avec des vaisseaux spatiaux de toute beauté.
Oui, il faut quand même, oui, bien sûr.
Quand même, comment on a pu faire ça,
bien
c'est honteux.
Bien sûr, parce qu'à la fin du film, qu'est-ce qui se passe à la fin du film? Je dirais que la fin du film est une ouverture vers l'espoir, vers l'espérance, vers le renouveau.
Vers le vol d'image aussi, non?
De l'humanité. Oui, absolument.
Mais carrément.
Bien entendu, parce que on est quand même dans un film italien, hein, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? En montant dans les essais spatiaux, on comprend qu'en fait, c'est un peu Adam et Ève, ces deux-là.
Ah bah oui,
ils vont recréer l'humanité.
Il décolle,
ailleurs. Ouais. Et là, quand même, il y a cette phrase de je sais plus qui d'ailleurs, c'est plus si c'est elle ou si c'est lui. Il lui dit c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Et là, il lui répond, voilà, c'est ça. Elle lui dit, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Et lui, il lui répond, j'ai fait un grand pas, j'ai trouvé l'amour. C'est pas beau, ça? Et le film se finit sur cette note de poésie, sur cette note d'espoir qui nous dit l'humanité va renaître grâce à ces deux-là, quand même. Et c'est là qu'on est mal barré.
Oui, c'est là où tu t'es dit, c'est pas pour le meilleur. Quand
et
même,
on va tout reconstruire à partir de ça. Et tu as raison de dire que d'où ils ont chopé les images des.
Ah ben, je pense qu'il y a un peu de Cosmos 1999 là-dedans. Ouais, hein, à mon avis, ça a été pompé seulement là-dessus. Ben oui, on dirait les aigles de Cosmos 1999.
Tout à fait.
Donc, je pense qu'il y a eu un peu de pompage. On s'est dit non, mais c'est bon, la série est vieille, ça passe.
Oui, ça
ne passe pas.
Ah oui, parce qu'en plus, elle n'était pas si vieille que ça à cette époque-là. Quoi. Mais voilà, comme toujours, les Italiens chopaient tout ce qu'ils pouvaient, comme les films. Après, les films étaient distribués.
Ouais, c'est ça.
En VHS pour beaucoup en Italie et autres. Et puis, il y avait à cette époque beaucoup de séries américaines qu'on ne connaissait pas en Europe, elles sont arrivées plus tard.
Et c'était plus facile de voler les images, et c'était plus difficile pour les producteurs de contrôler qu'elles avaient été volées quand on était sur la distribution en VHS. Ouais. Quoi. Donc,
voilà, donc tout cela fait de 2019, après la chute de New York, un film...
XXL dans le
XXL
genre.
XXL dans le genre, un monument du genre.
Un monument nanar du genre.
Complètement, et donc c'est très drôle à regarder parce que c'est très raté, donc c'est très savoureux. Voilà, et puis effectivement, c'est un petit peu le paroxysme d'un certain type de production, d'une certaine époque. Et après, je dirais qu'il y en aura un petit peu moins des films comme ça. Rita Albis comme ça, qui osait aller si loin dans le porte-la-wack. Donc merci à cette fine équipe de nous avoir produit tout ça. N'hésitez pas à les regarder puisque vous pouvez le trouver sur YouTube.
Celui-là se trouve facilement, ouais.
Voilà, et puis du coup on va se quitter.
Et bien sûr.
Après l'évocation de ce chef-d'œuvre. Voilà. On vous remercie encore une fois de nous être fidèles, d'écouter notre podcast. Vous pouvez donc retrouver les 4 parties de cet épisode numéro 9, Sortez-le de là, déjà disponible sur toutes les plateformes. Vous avez le premier Autour du culte sur New York 97, le deuxième Copy culte sur Los Angeles 2013. Troisième partie, ça se disculte. Puis cette dernière partie, évidemment, que vous êtes en train d'écouter. Voilà. Ridiculte, à dispo un peu partout. N'hésitez pas à nous mettre des bonnes notes, si possible.
Ah oui, ça nous aide bien, ça.
Sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et des commentaires aussi, parce que c'est vraiment ça qui permet au podcast de gagner en visibilité dans les classements. Et puis, bien sûr, déposez-nous vos commentaires et vos likes et tout sur le compte Instagram, bien entendu.
Ouais, on en a de plus en plus et c'est très cool. Et puis, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous et de découvrir des gens aussi passionnés que nous par tous les cinémas, les bons films comme les moins bons.
Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Carlito, à très vite.
À très vite, Tom.
À bientôt à toutes et à tous. Merci.
Salut.
20 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre atomique. Terre est presque entièrement devenue un désert radioactif. Les hommes qui ont survécu n'ont plus aucun avenir, ni aucun espoir.
Dernier avertissement aux contaminés de ce secteur. À 6 heures précises sera définitivement expiré le dernier délai. Il reste 30 secondes.
Tu iras à New York et tu devras trouver cette femme. Tu auras la vie sauve si tu réussis à nous l'amener. Tu auras Bronx avec toi. Oh et Racette.
Allez, avancez. Lâche que vous êtes.
Comment entrerons-nous à Manhattan? Entrer n'est pas difficile. C'est en sortir qui est impossible.
Tu dois dire ce que tu sais. Explique-nous la mission dont t'a chargé la nouvelle Confédération panaméricaine. Le seul moyen pour continuer à te taire, c'est de mourir. Mourir.
Je crois que je connais celle que tu cherches.
Et tu sais où elle est?
Peut-être.
Que veux-tu en échange?
Tu m'avais déjà promis de les reprendre, en précisant même que ce serait avant que mes yeux ne soient guéris.
Accrochez-vous! Jayada, si l'amour avait encore la moindre signification, tu serais la femme que je voudrais aimer.
Lâche-moi ça, sinon je vais le tuer.
Toi, tu es un humanoïde.
Attention!
Ça fait une belle course, mais voici que nous arrive le bouquet. Regarde!